Donc même si on connaît déjà la cérémonie de ce soir, c'est bien de se remémorer cette belle cérémonie qui nous met déjà dans la joie un petit peu à l'avance. Donc c'est une cérémonie qui se compose de quatre parties. Vous avez la première partie, c'est Jésus, lumière du monde. Donc c'est la bénédiction du feu nouveau, bénédiction du cierge pascal, et puis la procession solennelle jusqu'à l'église. Ensuite, une fois qu'on est dans l'église, une deuxième partie, ce sont les lectures. Donc il y a quatre lectures. C'est Jésus, parole, il est le Verbe de Dieu. La première lecture concerne la création. La deuxième lecture, c'est le passage de la mer Rouge, donc qui signifie le baptême. La troisième lecture, c'est une prophétie d'Isaïe sur l'église, la vigne, que notre Seigneur a entouré de tous ses soins. Et puis la quatrième lecture, c'est encore une lecture d'Isaïe, où notre Seigneur est source de grâce. Après ces lectures, donc, il y a une troisième partie, c'est Jésus, l'eau vive. Dans son discours avec la Samaritaine, donc, il a dit qu'il lui donnerait de l'eau. Cette eau, ça symbolise la grâce qu'il allait répandre sur les âmes. Donc cette partie se caractérise par la bénédiction de l'eau baptismale et la rénovation des promesses du baptême. Et cette année, on aura un baptême. Ensuite, la quatrième partie, c'est Jésus, le pain de vie, c'est la messe. Alors, voyons d'abord cette première partie, Jésus, lumière du monde. Donc la cérémonie commence par la bénédiction du feu nouveau. Le feu matériel est le symbole du Christ, lumière du monde. En effet, le feu, ça chauffe et ça éclaire. Et puis notre Seigneur, il est charité, donc il chauffe et il est lumière. Lumière de l'intelligence. Alors autrefois, le feu était tiré du silex. Donc maintenant, on a des briquets. Mais enfin, les briquets, normalement, il y a toujours sauf les briquets modernes, il n'y a peut-être pas de silex. Mais donc on tirait le feu d'un silex, mais ça avait une signification. Notre Seigneur est la pierre. Donc c'est l'étincelle qui sort du silex. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lumière qui sort du tombeau en pierre. Voilà, c'est le symbole que ça signifiait. Et autrefois, donc, on éteignait tous les feux des maisons. Alors, il n'y avait pas l'électricité, mais enfin, il y avait des chandelles, etc. Et les feux pour se chauffer. Hein, et on les rallumait à partir du feu nouveau, donc qui avait reçu la bénédiction. Et c'est l'origine de cette coutume. Notre Seigneur a voulu manifester cela par un miracle qui s'est propagé à Jérusalem pendant plusieurs siècles jusqu'à l'occupation musulmane, en fait. Enfin, au début de l'occupation musulmane, enfin, des combats, il a permis que ce miracle ait lieu, mais ensuite, quand Jérusalem a été sous domination musulmane, le miracle s'est arrêté. Donc, pendant plusieurs siècles, au Saint-Sépulcre, à Jérusalem, pour produire la présence de ce feu nouveau, aux yeux de tous les peuples, de tous les fidèles assemblés, donc le clergé, le peuple étaient assemblés autour du tombeau, et tous les feux des maisons étaient éteints, et on attendait la manifestation du feu nouveau, parce que le bon Dieu, là, on tirait pas le feu d'un silex, mais il l'allumait, comme autrefois les holocaustes étaient allumés par le feu descendu du ciel. Et là, eh bien justement, une des lampes qui était au-dessus du sanctuaire, si vous avez visité le Saint-Sépulcre d'Angers, donc il y a une reproduction exacte du tombeau de Jérusalem. Donc il y a des lampes qui étaient éteintes, qui étaient là. Et donc arrive un moment, hop, les lampes s'allumaient toutes seules. Donc tout à coup, l'une des lampes éteinte, enfin une des lampes, qui était suspendue au-dessus du tombeau, elle s'allumait d'elle-même. Et donc à partir de cette lumière, on allumait toutes les autres lumières. Et puis les gens prenaient aussi certainement des torches, ils allaient pouvoir allumer les feux dans leur maison. Ce prodige annuel paraît avoir commencé à se manifester à Jérusalem, après la conquête de cette ville par les Sarrasins, afin qu'il servît aux yeux de ses infidèles comme d'un signe de la divinité de la religion chrétienne. Il est attesté unanimement par les historiens contemporains qui nous ont laissé le récit des événements du royaume latin de Jérusalem. Et lorsque le pape Urbain II vint en France pour y prêcher la première croisade, entre autres motifs qui devaient rendre cher aux chrétiens de l'Occident l'honneur du sépulcre du Christ, il ne manqua pas d'insister sur ce prodige de chaque année comme attesté par tous les pèlerins de la ville. Donc on a pris cette coutume-là d'éteindre tous les feux et puis les allumer au feu nouveau. Bon, actuellement, nous on n'allume que les feux de l'église, donc la lampe de présence, et qui sert à allumer après toutes les autres lampes de présence qui existent. Donc au début de cette cérémonie, on éteint toutes les lampes. C'est une signification. Donc ça signifie l'abrogation de la loi ancienne qui a pris fin. Le feu est le symbole de l'amour, car comme le feu, l'amour s'attache à l'être aimé. Elle le dévore comme pour ne plus faire qu'un avec lui. Quand une bûche brûle, le feu il s'attache à la bûche jusqu'à temps qu'elle soit complètement consumée. S'il en est ainsi de l'amour ici-bas, que sera-ce de l'amour substantiel de Dieu qui est l'Esprit-Saint? Cet amour qui a fait l'incarnation du Verbe, c'est cet amour qui a opéré la rédemption du monde par le Verbe fait chair sous le bois de la croix. C'est lui le principe de toute œuvre de Dieu par le Christ Sauveur. C'est pourquoi on symbolise cet amour dans les fêtes de la résurrection, en commençant par la bénédiction du feu nouveau. Alors ensuite, il y a la bénédiction du cierge pascal. Donc le cierge pascal, il symbolise le Christ. Et dans ce cierge pascal, il y a 5 trous dans lesquels le célébrant va mettre 5 grains d'encens qui sont en forme de clous. Donc les 5 trous, ça signifie les plaies du Christ, et puis les 5 grains d'encens, ce sont symbolisent l'embaumement du Seigneur. Donc ce sont les parfums que les saintes femmes vont préparer pour l'embaumement, mais qu'elles pourront pas faire ce soir-là parce que ça sera le sabbat, elles le feront que le lendemain matin. Alors une fois que le cierge pascal est béni, allumé, au feu nouveau, on va processionner jusqu'à l'église, donc derrière le cierge pascal, le clergé, puis les fidèles. Donc le lieu où a lieu la bénédiction du feu et du cierge pascal symbolise le Christ, a lieu hors de l'église, donc c'est toujours hors de l'église, quand c'est possible, je ne sais pas comment ils font en ville, mais au moins devant le parvis de l'église, car le tombeau du Christ était situé à l'époque au-delà des murs de Jérusalem. Le calvaire n'était pas dans la ville, il était au-delà des murs. Et puis ensuite, les fidèles symbolisent le peuple chrétien qui suit le cierge pascal allumé en procession. Donc ce sont les chrétiens qui suivent la lumière du monde, qui les conduira à l'église et puis de l'église au ciel. La patrie céleste, la Jérusalem céleste. L'église est le symbole de la Jérusalem céleste. Et on peut faire un parallèle, vous voyez, toutes les cérémonies de l'Ancien Testament sont des images, des figures du Nouveau Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, le peuple hébreu qui a quitté l'Égypte a traversé la mer Rouge, et pour arriver jusqu'à la mer Rouge, il a été guidé par une colonne de nuée, donc qui les éclairait la nuit, et puis pendant le jour, elle les cachait, les protégeait, les cachait des ennemis. Donc la procession arrive dans l'église, et là, il y a trois ostensions du cierge pascal. Alors, on commence à un ton bas, Lumen Christi, ensuite un peu plus haut, etc. Donc ces trois ostensions manifestent la Sainte Trinité. La première ostension du cierge pascal proclame la divinité du Père, qui a été manifestée par Jésus-Christ. Nul ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui il aura plu au Fils de le révéler. Donc c'est le Fils qui révèle le Père. Quand notre Seigneur répond à la question de Philippe, « Montre-nous le Père et cela nous suffit », il dit « Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père, parce que le Père est en moi et moi je suis dans le Père ». Donc c'est notre Seigneur qui manifeste le Père. La deuxième ostension annonce la divinité du Fils qui s'est montré à nous par l'incarnation et nous a révélé son égalité de nature avec le Père. Ensuite, la troisième ostension proclame la divinité du Saint-Esprit qui nous a été révélée par Jésus-Christ lorsqu'il a ordonné à ses apôtres d'aller évangéliser les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, en résumé, le Christ, c'est le cierge pascal, qui est la lumière du monde, qui nous a fait connaître la Sainte Trinité. Ensuite, quand on a fait ces trois ostensions, on va allumer les cierges du clergé, puis ensuite de tous les fidèles. Donc, ça aussi un symbole, tout est symbolique dans la liturgie. Cela révèle la rédemption du Sauveur qui va se répandre successivement dans le temps et dans l'espace. Il faudra un certain temps. Actuellement, toutes les nations ont reçu l'Évangile, même si elles ne sont pas toutes pratiquantes, mais elles ont toutes reçu l'Évangile, jusqu'aux Esquimaux, les îles, les sauvages des îles autrefois. Il n'y a plus une seule île qui n'a pas connu l'Évangile. Donc, ça a mis du temps dans l'espace et dans le temps, mais c'est fait. Ensuite, une fois que toutes les lumières sont allumées, il va y avoir le chant de l'Exultet ou Préconium Pascale. Donc c'est un chant triomphal, un chant de joie, Exultet. Donc l'Église exulte de joie. Après toutes les tristesses du Vendredi Saint. Donc c'est un chant de louange aux accents mélodieux et forts, riche de poésie, qui retrace l'histoire de notre salut. Et l'Église est tellement transportée de joie qu'elle chante « L'heureuse faute d'Adam ». Souvent on dit « si Adam n'avait pas péché, ça serait plus facile pour nous ». Ben non, justement, « Heureuse faute d'Adam », parce qu'elle nous a valu un tel Rédempteur. S'il n'y avait pas eu la faute d'Adam, on n'aurait pas eu notre Seigneur Jésus-Christ incarné. Donc Dieu a permis ce mal pour en faire sortir une plus grande louange à sa gloire. La louange à la gloire de Dieu est plus splendide par le Christ crucifié, vainqueur du péché et de la mort, qu'elle n'aurait été par la sainteté d'Adam, persévérant dans la grâce originelle. Si Adam n'avait pas péché, il aurait été glorifié, mais ça aurait pas été la même chose que maintenant. Il y a plus d'amour dans ce qui existe actuellement, par cette participation que nous avons à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité, glorifié. Donc c'est avec ce regard qu'il faut voir les souffrances de l'Église. Alors ensuite, nous avons la deuxième partie, Jésus, parole. Donc quatre lectures. qui sont amplifiées par trois traits, donc des prières qui sont entre les lectures, et ces lectures et ces traits sont résumés par cinq oraisons. La première lecture, c'est la création. Donc la première création, qui est le récit de la création du monde, la lumière matérielle est le principe du monde matériel. Ensuite, il y a la deuxième création, c'est le monde racheté et glorifié par la lumière du Christ, qui est la lumière surnaturelle. Donc, entre ces deux créations, il y a le péché. La première leçon redit la création du monde, mais en tête de cette longue suite d'êtres créés, il y a le fiat lux, que la lumière soit. La lumière est au principe premier de l'ordre naturel, comme elle est au principe premier de l'ordre surnaturel. Elle commence le monde de la terre et du ciel matériel, comme la lumière du Christ commence le monde de la grâce et du ciel spirituel. Et après la lumière comme son rayonnement de splendeur, les êtres sortent tour à tour du néant. De même, par Jésus, crucifié et ressuscité, la lumière de la foi se répand sur toutes les âmes qui, tour à tour, à travers les siècles, reçoivent le rayonnement de sa splendeur. La deuxième lecture, c'est le passage de la mer Rouge. Donc, il symbolise le passage des catéchumènes à la vie de la grâce, hein, la vie divine. Donc, c'est le passage par l'eau du baptême, comme celui des Hébreux par la mer Rouge. Donc, à l'époque, le baptême se faisait par immersion. Donc, on le baptisait comme le ministre de la reine Candace, quand il a rencontré le diacre Philippe, il a été baptisé. Bon, je ne sais pas, il y avait un fleuve à côté, donc c'était par immersion, donc on le plongeait trois fois dans l'eau. Voilà, donc le symbolisme était beaucoup plus grand encore, enfin le parallélisme entre le passage de la mer Rouge et ce premier baptême. Donc le symbolisme, l'Égypte, le Pharaon et ses guerriers, eh bien, sont l'image de la servitude de Satan et du péché. Donc le peuple hébreu à l'époque était esclave des Égyptiens. Au début, quand ils sont arrivés en Égypte, ça s'est bien passé. Joseph était le ministre du Pharaon. Ensuite, ses successeurs, ça a été encore pas trop mal. Puis ça a fini par se dégrader parce que les Hébreux se sont multipliés, sont devenus très, très nombreux. Et du coup, il y a eu une jalousie entre les Égyptiens et les Hébreux, et les Égyptiens avaient peur que les Hébreux prennent le pouvoir. Donc, ils les ont persécutés. Ils les ont réduits à une espèce d'esclavage, c'est-à-dire ils devaient produire des briques, faire des constructions immenses, je sais pas quoi, les pyramides, etc. Et puis, ils avaient tout juste à manger. Donc, le bon Dieu les a pas abandonnés. Il a voulu les libérer de cet esclavage et le faire retrouver la terre promise qui avait été promise à leur père. Finalement, la divine providence, elle a permis qu'ils aillent en Égypte pour se développer, pour devenir un peuple, parce qu'au début, ils étaient 70 personnes, en comptant les serviteurs, etc., et ils sont devenus 2 ou 3 millions au bout de 400 quelques années, et donc ils formaient vraiment un peuple. Et donc, quand ils ont formé un peuple, le bon Dieu a permis qu'ils soient persécutés, pour pouvoir les tirer de ce peuple-là. Et donc, il les a fait traverser la mer Rouge. Hein. Donc, ils ont quitté l'esclavage de l'Égypte, symbole du péché et de la servitude de Satan. Et le passage de la mer Rouge symbolise vraiment le baptême, parce que dans le passage de la mer Rouge, Pharaon, qui symbolise le démon, et puis tous ces guerriers, ben, les démons, si on veut, et l'esclavage du péché, ils ont été engloutis complètement. Il n'y a pas eu un seul survivant. Donc, dans le baptême, celui qui est baptisé adulte, ben, tous les péchés qu'il a commis dans le passé, la dette due au péché, etc., tout est effacé complètement. Il ne reste plus rien. Il n'y a plus que l'âme en état de grâce. Hein. Et si le baptisé devait mourir juste après son baptême, eh bien, il irait directement au ciel. Alors ensuite, il y a un symbolisme aussi sur les 3 jours de marche pour parvenir à la mer Rouge. Donc le symbolisme, toujours par rapport au baptisé, c'est tiré de Don de Montléon. À peine cette âme est-elle descendue dans les eaux du baptême, qu'elle voit celle-ci anéantir entièrement le roi d'Égypte et son armée, c'est-à-dire toute la horde des péchés qui prétend avoir des droits sur elle, et voudrait la maintenir sous son emprise. En un instant, elle se trouve complètement libérée, sans avoir à combattre, sans avoir à faire autre chose qu'à traverser l'eau, puisque le baptême, on le sait, efface absolument toutes les fautes antérieures. Toutefois, ceci ne peut s'accomplir qu'après 3 jours de marche, qui représentent les 3 jours que le Christ a passé dans le tombeau, parce que ce sont les seuls mérites de sa passion et de sa mort qui nous ont obtenu cette victoire. Alors, à la sortie de la mer Rouge, donc les Hébreux, ils sont soulagés, forcément. Ils ont vu toute l'armée du Pharaon qui était engloutie. Et Moïse va être inspiré, donc il va chanter un cantique. Cantique de Moïse qu'on récite à l'aude pendant le temps du carême. C'est le 4e psaume des Laudes. Donc il a chanté ce cantique inspiré au bord de la mer Rouge. Et à la fin, il y a une oraison qui résume ce cantique. Donc le prêtre célébrant dit: Dieu dont les antiques miracles se manifestent glorieux même à notre époque, accordez-nous, nous vous en prions, que comme vous avez délivré le peuple d'Israël de l'Égypte, vous le fassiez également par les eaux du baptême pour le salut des nations. Donc, après cette lecture du passage de la mer Rouge, il y a une 3e lecture qui est une prophétie d'Isaïe. Donc, c'est une lecture Non, c'est pas encore l'allégorie de la vigne. Donc, le commentaire de cette lecture du Père Mortier, donc dominicain. Le bien-aimé, c'est Dieu. Cette vigne, donc il parle quand même de la vigne dans le trait. Hein. La vigne, sa vigne choisie, soignée, protégée, c'est nous. Sous la figure du peuple d'Israël, comme il nous a gardé, lui, notre maître. Chacun peut lire dans son propre cœur. Il y verra en lettres de feu les témoignages de l'amour de Dieu. Et si nous les lisions, comment y rester insensible? Si Dieu nous a tant aimés, nous en particulier, s'il nous a gardés, s'il nous a sauvés de nous-mêmes, nous ne devons-nous pas le remercier et l'aimer lui aussi un peu plus? À côté de ces lettres du feu qui écrivent dans notre cœur l'amour de Dieu, pour nous, écrivons en lettres de feu aussi notre amour pour lui. Donc si on reprend chacun notre histoire personnelle, on peut voir ce que le bon Dieu a opéré finalement depuis notre baptême ou notre conversion. On voit les grâces qui ont échelonné notre vie. Donc le bon Dieu nous suit, il nous aime, sa providence dispose les choses pour nous conduire au terme de notre vie dans ce royaume céleste qui nous a préparé. Ensuite, la 4e lecture, c'est encore un chant d'Isaïe. Et puis après, donc, il y a encore la 5e lecture. Donc, c'est un appel du Sauveur à s'approcher de la source de la grâce. Je vais lire juste le petit passage. Donc, c'est un long texte d'Isaïe encore. Et dans ce texte, j'extrais simplement une phrase. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et le criminel ses pensées, qu'il se convertisse au Seigneur et il lui fera grâce. Donc en gros, c'est le temps favorable, le bon Dieu donne sa grâce, il faut y répondre généreusement. Donc dans ce texte, notre Seigneur, il est donc dit que notre Seigneur paie pour nous, il nous offre tous les fruits de sa rédemption, il faut répondre à son appel, et la condition, donc, c'est se reconnaître pécheur, renoncer au péché, c'est la seule condition. Et ensuite, bien la grande miséricorde de Dieu, donc qui se penche sur nous, sur le pécheur qui se reconnaît tel, et donc qui procure ses effusions de grâce aux pécheurs. Et le trait, donc, vous le connaissez, c'est comme le cerf soupire après les sources des eaux, ainsi mon âme soupire après vous, ô mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand viendrai-je et apparaîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes ont été ma nourriture le jour et la nuit, pendant qu'on me dit tous les jours, où est ton Dieu? Donc les catéchumènes qui se préparaient, bon là on en aura juste un, pour le baptême, donc ils sont un petit peu dans cet état-là, vous voyez, du cerf qui soupire après l'eau de la grâce qui va découler au baptême sur son âme. La troisième partie donc de la cérémonie, c'est Jésus, source d'eau vive. Donc, c'est la bénédiction de l'eau baptismale. Donc, c'est toute une longue cérémonie avec beaucoup de symbolisme. Il y a tout d'abord la bénédiction donc, de l'eau baptismale et ensuite la rénovation des promesses du baptême. Cette bénédiction de l'eau baptismale est encadrée par les litanies des saints pour rappeler le but du baptême, la vie éternelle. Donc, toutes ces prières sont calquées sur le ton solennel, qui est celui de la préface, pour faire ressortir la valeur de cette eau d'où sortiront les chrétiens, heureux poissons du Christ. Alors, il y a tout d'abord la division des eaux en forme de croix, donc dans une vasque qui était préparée, donc il y a de l'eau, et le prêtre va diviser les eaux en forme de croix. Hein. Donc c'est par la croix que ces eaux ont acquis le pouvoir de régénérer les âmes. Hein. Toute la puissance des sacrements, etc., de tout ce qu'on peut faire, ça vient de la croix. Ensuite, il va toucher l'eau de la main. Donc les mains du prêtre sont consacrées et donc source de sanctification. Par cette imposition des mains sur l'eau, il protège, il purifie cette créature de l'eau, hein, de toute influence diabolique. Ensuite, il va diviser cette eau en la projetant aux quatre points cardinaux. Hein. Donc ce rite rappelle les quatre fleuves qui fécondaient le paradis terrestre. De même que ces quatre fleuves fécondaient toute l'étendue du paradis, de même l'eau du baptême se répandra à travers le monde entier par la prédication et rendra la terre féconde, c'est-à-dire donnera des saints pour peupler le paradis. Ensuite, le peuple souffle trois fois en forme de croix. Donc le souffle, c'est toujours le symbole du Saint-Esprit, hein. C'est pour montrer le parallèle qui entre la première création où le Saint-Esprit planait sur les eaux et la deuxième création où il opère la régénération par la grâce. Ensuite, on fait amener le cierge pascal et le cierge pascal, donc qui représente le Christ, il le plonge trois fois dans l'eau baptismale, hein. Donc, ce rite exprime le mystère du Christ dans le Jourdain, le baptême, pardon, du Christ dans le Jourdain. Notre Seigneur a été baptisé dans le Jourdain, Donc il a été plongé dans le Jourdain, et puis là s'est fait entendre la voix du ciel, et une colombe qui symbolisait l'Esprit Saint est apparue au-dessus de sa tête. Donc le Fils de Dieu était descendu dans le fleuve, et l'Esprit Saint reposait sur lui en forme de colombe, pour bien signifier que la sanctification des eaux se fait par la puissance du Saint-Esprit et la vertu du Christ. Donc, une fois que le cierge est dans l'eau pascale, le prêtre va souffler trois fois sur l'eau. Ensuite, on retire le cierge pascal, et puis on va prélever un peu de cette eau, donc qu'on appelle l'eau pascale. C'est pas encore de l'eau baptismale, parce que on n'a pas encore mis les saintes huiles. Et cette eau pascale, elle sert à baptiser les maisons pendant tout le temps pascal. On prend pas de l'eau bénite ordinaire, on prend cette eau-là, justement. Ça s'appelle l'eau pascale. Alors, après avoir prélevé cette eau pascale, on va imposer les saintes huiles qui ont été bénites, qui ont été consacrées, pardon, le jeudi saint, donc par l'évêque. Hein. Donc elles sont toutes fraîches là. Donc il y a l'huile des malades, l'huile des catéchumènes et le Saint-Crème. Donc c'est pour honorer cette fontaine de salut que l'Église répand sur les eaux l'huile des catéchumènes et le Saint-Crème. Donc elle va manifester la surabondance de grâce accordée à ces eaux en répandant ensemble les deux huiles. On ne prend pas l'huile des malades. L'huile des malades, c'est un peu spécial. On prend les huiles qui sont les plus saintes, l'huile des catéchumènes et le Saint-Crème. Donc Dieu est surabondant dans ses œuvres naturelles. Il suffit de voir un chêne, le nombre de glands qu'il produit pour assurer la survie des chênes. Hein, il en produit des milliers sous un seul chêne. Hein. Eh bien, dans tous les domaines de la nature, c'est comme ça. Dans la vie surnaturelle, eh bien, c'est encore plus abondant, hein, plus généreux. Donc, après cette bénédiction de l'eau baptismale, il va y avoir la rénovation des promesses du baptême. Donc, dans les premiers siècles de l'Église, c'était le seul jour où l'on baptisait. Par la rénovation des promesses du baptême, nous renonçons aux démons, à toutes ses œuvres, ses séductions, et nous nous attachons au Dieu Trinité. Nous croyons à la Sainte Église catholique. Et puis ensuite, il y a la demande de pardon. Donc, demande de pardon ne peut être faite qu'au nom de l'Église qui est sainte. Elle est sainte malgré qu'elle soit faite de nombreux pécheurs, dont la fonction est de les conduire à Dieu. Voilà. Vous savez que dans l'application pour les sacrements, heureusement d'ailleurs, le bon Dieu a donné la puissance à ses ministres, quelle que soit leur sainteté, même si on est à de péché mortel, bien quand ils baptisent, quand ils donne l'absolution, eh bien le sacrement est valide. Heureusement, sinon il faudrait être sûr que le prêtre est en état de grâce. Donc c'est indépendant de la sainteté des prêtres. Alors ça veut bien sûr, il faut que le prêtre il soit saint, c'est encore mieux. Mais les sacrements conservent toute leur force, donnée par un prêtre qui est en état de péché mortel, mais qui veut faire ce que fait l'Église. Hein. Voilà, donc après le renouvellement des promesses du baptême, on va procéder, donc il y aura la messe qui est la quatrième partie de cette cérémonie, donc c'est Jésus, le pain de vie, qui se donne à nous dans la Sainte Eucharistie. Donc c'est le sommet de la cérémonie, hein, puisque les symboles vont laisser la place à la réalité. Donc l'autel est orné, les chandeliers, voilà, sont tous allumés. Tout est préparé pour manifester la joie de la résurrection. On a mis des fleurs au cierge pascal, sur l'autel, etc. tout est magnifique. Donc, pour manifester cette joie de la résurrection, et cela va se traduire par le son des cloches. Voilà, on va sonner les cloches en pleine nuit. Et donc, les deux cloches donc, qui ont un son joyeux, hein, et vous savez que les cloches, elles sont bénites, elles reçoivent une consécration, donc une vertu spéciale pour appeler les chrétiens, normalement, à la prière. Et de fait, c'est une influence, ce sont des cloches. Vous voyez, tous les gens du lotissement, etc., la plupart, ils pratiquent pas. Hein. Mais quand on parle avec eux, de temps en temps, quand on en rencontre, ils sont contents d'entendre le son des cloches. Même s'ils pratiquent pas, ils se disent, eh bien, voilà, il y a des frères qui prient pour nous. Et pour eux, c'est voilà, symbole qu'il y a la prière qui se fait pour les chrétiens. Donc, c'est parce qu'il y a une vertu avec le son des cloches. C'est pour ça que le son des cloches, les musulmans, ils en ont horreur, les juifs aussi, donc faut pas qu'il y ait les cloches, faut pas sonner des cloches. On pourrait dire, c'est parce qu'ils aiment pas le bruit de la cloche. Non, c'est pas ça du tout. C'est parce que la cloche, elle a une vertu salvifique, elle appelle les chrétiens et elle peut donner des grâces actuelles pour aider les gens à se dire, les cloches sonnent, oui, c'est l'église qui prie pour... Donc ça leur rappelle... s'ils sont baptisés, leur baptême, etc., ou leur enfance, s'ils ont pratiqué, ça peut les attirer à l'Église. Hein. Donc, partout où il y a des ennemis d'Église, ils essaient d'étouffer le son des cloches, en général. Hein. Alors, donc, pour manifester cette joie, les frères donc, vont quitter la chape, et ils vont être tout en blanc. Hein. L'épître, eh bien... c'est tiré de saint Paul, donc c'est toute la doctrine de notre Seigneur ressuscité. Elle est très courte. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les biens qui sont en haut, là où est le Christ assis à la droite de Dieu. Goûtez les biens qui sont en haut, non ceux qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ apparaîtra, lui, votre vie, alors vous aussi, vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. En gros, toute notre vie de chrétien est un mystère qui renouvelle le mystère du Christ, c'est-à-dire qu'on doit mourir tout doucement à nous-mêmes, au vieil homme, et on finira par mourir aussi, voilà. Et si notre mort est unie à celle de Jésus-Christ, eh bien, la vie de la grâce qui avait été commencée en nous au baptême, qui se développe normalement toute notre vie jusqu'à l'heure de notre mort, eh bien, si on fait une sainte mort, eh bien là, on va pouvoir apparaître tout glorieux avec notre Seigneur au ciel. Et à la fin du monde, seulement notre corps sera ressuscité, glorieux, parce que ça sera la consommation de toutes choses. Mais ça ne peut pas se faire avant, hein, sauf pour des exceptions, hein, de quelques saints comme Saint Joseph, par exemple. Donc nous sommes du Christ, nous ne sommes plus de la terre. Voilà. Donc toutes nos pensées, nos actes, tout doit être orienté vers le Christ. Alors, c'est tout le combat de la vie chrétienne. Donc il faut... arriver à vivre de cette vie de la grâce qui est en nous, et puis maintenir, la garde de notre âme, de notre cœur, pour éviter que la citadelle de notre âme soit prise d'assaut par le démon qui essaie toujours forcément de nous faire tomber. Hein. Alors juste avant l'évangile, il va y avoir le chant de l'Alléluia. Donc, ça fait 70 jours qu'on ne l'aura pas entendu, hein, depuis les cendres, depuis la Septuagésime. Hein. Donc, c'est un mot hébreu qui traduit la joie, Alléluia. Bon, ça ne veut rien dire. Enfin, ça devait dire quelque chose peut-être en hébreu, je ne sais pas. Mais bon, c'est intraduisible, mais ça marque une grande jubilation. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on l'a gardé. Hein. Donc, toutes les austérités de la sainte quarantaine vont s'évanouir. Il faut garder la mesure, bien sûr. Hein. on reste des âmes ressuscitées. Hein. C'est fini le jeûne, etc. Mais bon, c'est pas justement. Il faut goûter les choses du ciel. Hein. Et même une fois ressuscité, prenez par exemple notre Seigneur Jésus-Christ. Il a apparu à ses apôtres ressuscités. Il n'avait plus besoin de manger, etc. Mais pour les aider, il a quand même mangé avec eux du poisson grillé, des rayons de miel, etc. Vous voyez, c'est pas à rejeter. Il faut entretenir nos corps, mais toujours dans l'esprit de la résurrection. Donc, nous avons pratiqué la pénitence, on espère, la mortification, hein, et donc c'est normal qu'on se réjouisse. Hein. Donc, le trait qui est juste avant l'évangile manifeste la raison de cette joie. Et ça, c'est très beau. Hein. Et le Père Mortier commente ceci en disant « Donc, par la mort du Christ, le Fils de Dieu fait homme, par sa glorieuse résurrection, nous possédons de façon certaine, définitive, immuable, la miséricorde de Dieu, son pardon, sa grâce, sa vie pour l'éternité. Avec lui, le ciel est nôtre. Et cette miséricorde ne passera pas, car elle est établie sur la vérité de Dieu qui lui demeure à jamais. » Donc, notre Seigneur est vraiment donné, il est pour nous. Donc, voilà, tout homme qui veut venir à lui peut le posséder, donc il est pour nous, et donc c'est une grande espérance. L'enfer, le démon, les tentations du monde, le mondialisme, tout ça, c'est rien du tout à côté de ça. Hein. Donc c'est une bonne nouvelle à annoncer au monde, et c'est la seule bonne nouvelle finalement. Hein. Alors l'évangile, c'est l'évangile des saintes femmes qui viennent au tombeau, et donc elles ont vu les anges, et elles sont craintives, etc. Les anges, ils sont tout brillants de lumière. Et ça commence par ces mots, ne craignez pas, hein, dit l'ange à ces femmes. Hein. Donc vous qui cherchez Jésus, ne craignez pas. Hein. Il ne faut pas craindre. Quand on recherche Jésus, on n'a rien à craindre. Hein. Ne craignez pas, dit-il à ces deux femmes éplorées, ne craignez pas, vous, car je sais que vous cherchez Jésus. Celui qui en ce monde cherche Jésus, que pourrait-il craindre? Mais il faut le chercher loyalement. Toujours. Dites aux choses de la terre, vous ne m'êtes rien. Je passe au milieu de vous comme un étranger. Je cherche mieux que vous. Je cherche Jésus. Je le cherche pour que ma pensée soit remplie de lui. Je le cherche pour que mon cœur n'aime que lui. Pour qu'il en soit le souverain absolu. L'unique, pour qu'il y vive seul. Et que seul il y soit aimé. Cherchez Jésus partout, en tout, et votre vie humaine, cette petite vie, si chétive, deviendra une vie divine. Personne ne peut vous enlever ce trésor. Vous qui cherchez Jésus, ne craignez pas. Ça rappelle un petit peu les paroles de Saint Bernard sur le nom, Saint-Nom de Jésus. Donc, quand il ne trouve pas Jésus dans un discours, dans un livre, etc., tout est triste, etc. Donc, il veut trouver Jésus partout. Eh bien, c'est cette joie-là qu'on doit avoir, celle de trouver Jésus partout, même caché dans les malheurs d'ici-bas. Hein. Donc, il y a quelques particularités à cette messe. Il n'y a pas de credo, pas d'offertoire, pas d'Agnus Dei. Hein, donc c'est pour abréger un petit peu cette longue vigile pascale. Donc la communion, alors normalement à cette cérémonie il y avait tous les nouveaux baptisés, donc ils font leur première communion. Imaginez, c'est très émouvant pour eux de pouvoir recevoir notre Seigneur pour la première fois. Donc c'est pour ça qu'ils sont habillés de blanc, hein, parce qu'ils font leur première communion. Donc, et puis il est resté habillé de blanc jusque pendant les 8 jours de l'octave pascale. Donc il faut que cette cérémonie nous rappelle un petit peu notre première communion. Hein. Et dans la communion, rappelons-nous que nous recevons le corps, le sang, l'âme, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. C'est notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité qui vient en nous pour nous transformer, nous ressusciter intérieurement, voilà, vaincre en nous toutes les mauvaises choses, le péché, les mauvaises habitudes, etc. Et finalement, faire triompher, eh bien, sa rédemption en nous. Voilà, donc, préparons-nous à cette joie de ce soir.